VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, la procureure de la Cour pénale internationale doit urgemment commencer à enquêter sur les crimes dont est accusé le camp du président Alassane Ouattara lors des violences post-électorales de 2010-2011. C'est ce que déclare aujourd'hui Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York. Dans son rapport sur le travail de la CPI en Côte d'Ivoire publié ce mardi, l'ONG note que seul l'ex-président Laurent Gbagbo et ses partisans, les perdants du conflit, ont jusqu'à présent été inculpés par la CPI. Ce qui vaut parfois à la Cour pénale internationale d'être taxé de justice des vainqueurs. Human Rights Watch exhorte aussi la CPI à mieux expliquer son travail aux communautés ivoiriennes affectées pour que le tribunal soit perçu comme légitime. Ici à Washington, le président américain Barack Obama a donné hier le coup d'envoi de la seconde édition du YALI, l'initiative américaine pour les jeunes leaders africains. Pendant plus d'une heure, le chef de l'exécutif a dialogué avec les 500 jeunes invités à ce sommet. Barack Obama a évoqué notamment l'entrepreneuriat en Afrique et la discrimination dont souffrent les femmes et certaines minorités. Comment son message a-t-il été accueilli? Écoutons tout d'abord Aurélie Adam Soulé, ingénieur télécom au Bénin.
Le discours du président Obama a été très inspirant pour nous tous. Personnellement, ce que je retiens le plus, c'est que on peut être le plus grand homme, le plus convoité du monde et encore être accessible aux personnes qui sont les plus importantes sur cette terre, les jeunes, les femmes. Ceux qui au quotidien vivent en fait toutes les difficultés dans leur pays respectif.
Et maintenant, écoutons Roméo Essou, également cadre au Bénin.
Je retiens de son discours essentiellement qu'il a demandé à nous, les jeunes Africains, les leaders de demain, le rôle qui est le nôtre dans le processus qui consistera à freiner l'hémorragie des cerveaux africains vers les pays européens. L'Afrique a besoin de ses cadres. L'Afrique a besoin de l'intelligence de ses fils. Malheureusement, la plupart d'entre ces fils qui viennent découvrir tout ce qu'il y a de bon dans le système éducatif occidental, malheureusement, tout cela ne retourne pas au pays pour contribuer.
Roméo Essou, un participant au YALI à Washington. Au Gabon, la société civile libre exhorte la France à aller jusqu'au bout dans l'enquête préliminaire du parquet de Paris, ouverte contre Meksan Akrombesi, directeur de cabinet du président Ali Bongo. L'intéressé a été intercepté au principal aéroport de Paris, puis relâché après avoir été entendu par la police judiciaire. Nathalie Barge.
Meksan Akrombesi a été interpellé lundi à Roissy par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières alors qu'il s'apprêtait à quitter la capitale française. Il a été relâché dans la soirée selon son avocat Francis Spinner, cité par l'AFP, ajoutant qu'il devait repartir au Gabon où il continuera à exercer ses fonctions. L'interpellation du directeur de cabinet d'Ali Bongo est survenue dans le cadre d'une enquête ouverte en 2007 par le parquet de Paris pour corruption et blanchiment d'argent public étranger. Son immunité a été levée selon le ministère des Affaires étrangères français. Lors de sa garde à vue à Nanterre, Meksan Akrombesi s'est expliqué sur un contrat de 2005 entre la société française marque de confection d'uniformes militaires et le ministère de l'Intérieur gabonais pour un montant de 7 millions d'euros. Une ancienne salariée de la compagnie qui était chargée de l'export à cette époque a également été entendue par la police judiciaire. D'origine béninoise et naturalisée gabonais, Meksan Akrombesi est un influent collaborateur du président Ali Bongo, occupant le poste de la direction du cabinet présidentiel depuis 2009.
Au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, le président de l'Association pour la promotion des droits de l'homme et des prisonniers, blessé lundi soir dans une tentative d'assassinat, est dans un état stable et sous protection policière à l'hôpital aujourd'hui, selon les déclarations de membres de sa famille à l'AFP. Au micro d'Éric Manirakiza, Innocent Mourosi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, explique que cette tentative d'assassinat est probablement liée au meurtre dimanche dernier du général Adolphe Nshimirimana, conseiller à la sécurité du président Pierre Nkurunziza.
Je crains qu'il ne se passe pour certaines personnes ce qui s'est passé déjà avec les radios, avec la tentative de coup d'État. On a vu que la tentative de coup d'État a été l'occasion pour en finir avec les radios qu'on voulait déjà fermer depuis un bon bout de temps. Et que maintenant, avec l'assassinat du général Chimilima Adolphe, certains en profitent aussi pour éliminer tous ceux qu'ils avaient eu envie d'éliminer sans pouvoir le faire par le passé.
Il y a eu un appel au calme par le président de la République. Il y a beaucoup de chancellerie qui abondent dans le même sens. Est-ce que vous pensez que le calme va revenir à Bujumbura?
C'est un message tout à fait pertinent d'appeler au calme, mais le problème c'est que c'est trop tard pour tout ça. Ça fait trop longtemps que la violence s'est installée dans ce pays. Je ne suis pas sûr qu'il suffise d'un appel au calme pour qu'on puisse éviter le chaos dans lequel on est en train d'évoluer depuis plusieurs mois.
Innocent Mouzi à Bujumbura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Des universitaires venus de divers pays d'Afrique se sont retrouvés la semaine dernière à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour un sommet des universités africaines. L'occasion de se pencher sur les grands défis de l'enseignement supérieur sur le continent. Lionel Gaïma.
Les universitaires ont souligné que le développement du continent passe par l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur en particulier. Mais, ont-ils ajouté, le manque de fonds, les faibles infrastructures et la forte demande font de l'éducation de jeunes Africains une gageure. David Finanga est le numéro 2 de l'université de Dar es Salaam. La plupart des pays tentent d'augmenter le nombre de diplômés parce que c'est important pour le développement économique, mais les ressources sont insuffisantes et cela affecte la qualité. Donc nous nous débattons dans des difficultés en essayant d'établir un équilibre entre les deux, parce que nous avons besoin de quantité, c'est-à-dire d'un plus grand nombre de diplômés tout en préservant la qualité face à des ressources limitées. Même l'une des plus grandes universités d'Afrique australe se débat dans des difficultés financières persistantes. Pinky McGuay de l'université de Johannesburg.
Nous avons vu la réduction d'une partie du financement gouvernemental et nos institutions doivent trouver des moyens de combler le manque à gagner.
Devin Finanga de l'université de Dar es Salaam reconnaît que ce n'est pas facile de se battre pour l'enseignement supérieur en Afrique, un continent souvent confronté à des plus graves problèmes tels que la guerre, la famine et la pauvreté. Mais soutient-il, un enseignement supérieur de qualité aidera à résoudre beaucoup de ces problèmes. Vous ne pouvez pas avoir de développement sans création de la connaissance et sans transfert de cette connaissance. Les experts estiment aussi que les gouvernements africains devraient tenir compte des conséquences pour tous ces jeunes sortis frais et moulus des établissements d'enseignement supérieur. Ousmane Sen, directeur du Centre de recherche ouest-africain.
Quand vous formez ces jeunes, vous remplissez leur cerveau de connaissances. Que va-t-il se passer quand ils sortent de l'université et n'ont pas d'emploi?
Il est évident que les problèmes de l'enseignement supérieur en Afrique ne pourront pas être réglés du jour au lendemain. Ils nécessitent des investissements massifs, un engagement de la part du gouvernement et les efforts combinés de toutes les parties concernées. La situation n'est pas moins urgente, disent les experts, parce que l'avenir même de l'Afrique en dépend.
Ici aux États-Unis, réaction négative du Parti républicain au plan annoncé hier par le président Barack Obama pour ralentir le changement climatique. Par contre, à l'étranger, l'Union européenne a salué le plan Obama et ses efforts sincères pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un coup de projecteur sur les propositions du chef de l'exécutif américain avec Eddie Isango.
Je suis convaincu qu'il n'y a pas de défi qui pose une plus grande menace pour notre avenir et pour les générations futures que les changements climatiques. C'est en ces termes que Barack Obama a souligné l'urgence d'une intervention avant que la situation ne devienne irréversible. Le président Obama a évoqué les progrès faits par les États-Unis, notamment en Californie, dont les niveaux de pollution de l'air étaient égaux à celui de Pékin, mais qu'il a sensiblement réduit. Le chef de l'État américain a souligné que beaucoup d'efforts restent à être faits, même si le débat est particulièrement vif à ce sujet aux États-Unis, où 37% de l'électricité est encore produite par des centrales au charbon, une source d'énergie problématique d'un point de vue environnemental. L'annonce de ce plan intervient à moins de 6 mois de la tenue à Paris de la conférence sur le climat COP21. Cette conférence réunira 195 pays qui devraient s'engager à limiter à 2 degrés Celsius, la hausse de la température mondiale générée par les émissions de gaz à effet de serre.
Et pour terminer, le président Barack Obama prévoit également de faire un discours important cette semaine sur l'accord international de restriction du programme nucléaire de l'Iran. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.